Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo. Là.
Bonsoir, interview des créateurs de Strike Vector pour ActuSF. Donc je me retrouve avec 3 des 4 Fantastic Four. Donc les gars, vous avez créé un jeu vidéo qu'on peut qualifier de multiplayer pour l'instant, mais qui devrait avoir un scénario solo d'ici peu, si j'ai bien entendu, et qui se situe dans un genre de shoot'em up où on bute absolument tout ce qui se présente et surtout les gentils petits camarades qui arrivent en ligne.
Bah, c'est pas mal décrit. Alors bah moi c'est Paul, donc je suis un des créateurs de Stravector. Donc moi je m'occupe de la partie, avec mon associé, un de mes associés Pierre-Étienne Travers, de la partie graphisme. Donc on va faire tout ce qui est concept, illustration, puis la 3D ensuite, donc faire les maps, les vaisseaux, enfin tout ce qui est lié au visuel quoi. Donc les vidéos, l'interface, etc. Donc voilà. Et ça fait plaisir d'avoir enfin sorti ce jeu ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse dessus, on continue à bosser sur le jeu là, on s'occupe de faire du contenu additionnel et voilà quoi.
Alors moi c'est Pierre-Étienne, je fais partie du pôle graphisme on va dire aussi, donc avec Paul je fais du concept et la 3D pour le jeu, depuis un bout de temps déjà, et donc voilà.
Salut, moi c'est Cédric, je suis programmeur sur Strike Vector. J'étais programmeur depuis très longtemps et ça fait à peu près un an et demi que je bosse sur ce projet, voilà.
Ok, alors on va la refaire. Je vais demander à tous de vous présenter. Qu'est-ce que vous avez fait surtout avant le jeu-là ? Quel a été votre parcours ? Sur quoi vous avez bossé ? Et qu'est-ce qui fait que d'un coup d'un seul, vous êtes rencontrés, vous avez décidé de faire un jeu en commun ? Qui récupère la machine ?
J'ai commencé des études de graphisme en fait, et ça me plaisait, mais je préférais vachement plus le dessin, l'illustration, ça me branchait carrément plus, et du coup je me suis mis à fond là-dedans et j'ai commencé par bosser. En fait, je regardais toutes les options que j'avais devant moi, où est-ce que je pouvais bosser en tant qu'illustrateur concept artiste. Donc il y avait le jeu vidéo, le film, l'animation, et je me suis retrouvé propulsé dans le jeu vidéo, ça m'a plu direct. J'ai commencé à bosser sur Shootmania en fait, c'était la pré-prod du jeu, il venait de commencer le jeu, donc c'était un ADO, donc c'était super bien passé. Shootmania, c'était un jeu, c'est un shooter en fait qui s'inspire pas mal de Quake, je pense qu'ils ont voulu refaire un peu le Quake d'aujourd'hui quoi, enfin un Quake actuel quoi, avec des graphismes actuels quoi. Ensuite j'ai fait du freelance, donc j'ai travaillé pour quelques boîtes, j'ai même bossé pour Disney, donc j'ai fait quelques images, et c'est vrai que c'était super cool de pouvoir bosser pour Disney, enfin moi ça m'a fait beaucoup plaisir hein. Et ensuite j'ai bossé pour Dontnod Entertainment sur Remember Me, donc le jeu dans Paris, science-fiction avec la tour Eiffel au milieu des tours de 4 km de haut, et c'était exactement ouais. Et je me suis bien marré dessus quoi. Donc voilà, et ensuite Pierre-Étienne est venu me voir parce qu'il avait envie de monter un projet, et on a eu envie de monter un projet ensemble parce qu'on se connaissait depuis un bail, et on s'est fait une conversation sur MSN. Il y a un jeu qui est sorti, on a eu une petite idée, voilà, un jeu de transfo de vaisseaux, parce qu'on aime bien faire les vaisseaux, on aime bien la SF, donc on est parti là-dessus et c'est là que ça a démarré quoi.
Alors moi comme Paul j'étais concept artiste, donc j'ai travaillé d'abord en freelance, donc j'ai fait quelques petits boulots, et ensuite j'ai été recruté par Sony en Angleterre, donc je travaille pour le studio Sony Liverpool qui n'existe plus, mais c'était une chouette expérience. Ensuite je suis revenu à Paris, j'ai bossé pour Quantic Dream. pendant un an. Et ensuite, on a commencé le projet Strike Vector avec tous les autres.
Voilà, moi, mon background comme programmeur, j'ai débuté à l'âge de 14 ans sur Amstrad CPC à l'époque. J'ai commencé à programmer là-dessus, après sur Atari, j'ai fait quelques démos à l'époque. Et puis ensuite, je suis passé sur l'Amiga, j'ai essayé de faire un premier jeu en 92 qui a foiré.
C'est l'époque de Player One, quoi.
Ouais, c'est l'époque de Player One, ouais. Qui a foiré au bout de 10 mois parce que mes acolytes avaient plus trop foi dans le projet, quoi. Du coup, je me suis remis à mes études et en sortant, je me suis dit que j'allais repartir dans le jeu vidéo. Donc je me suis fait engager dans une boîte qui s'appelait Virtual Studio à l'époque. J'avais bossé sur un jeu de snowboard obscur pour Canal Plus Multimédia quand ça existait encore. Ensuite, j'ai embrayé sur pas mal de portages de jeux PC vers la PlayStation 1 et sur Macintosh aussi. Notamment dans les plus connus, il y avait Amerzone qui avait pas mal marché. Et, Dracula. Amerzone, il y a eu plusieurs suites ouais, sur PC effectivement. Mais j'avais fait que le 1 sur PlayStation et sur Mac. Ensuite, ouais, dans la même veine, j'avais enchaîné sur les Dracula 2 pour Wanadu. Wanadu.fr qui faisait du jeu à l'époque. J'avais fait pas mal de petits trucs comme ça. Quelques jeux sur Game Boy Advance, des jeux de commande pas très intéressants. Et ensuite, je suis passé chez Darkworks. Darkworks à l'époque sur le jeu qui s'appelait Colfir, qui était développé par Darkworks pour Ubisoft sur Xbox et sur PlayStation 2. Moi j'avais fait la version PC du jeu. Ensuite j'avais été chez Ubi sur Ghost Recon et j'avais enchaîné chez Darkworks à nouveau avec I Am Alive, un fameux projet qui se passait à Chicago, univers réaliste de survie après une catastrophe naturelle. Le type qui recherche sa famille, exactement. Enfin, il y avait une version de Dark Horse qui n'est jamais sortie et une version qui est sortie, qui a été refaite en Chine plus tard. Donc on a fait deux jeux finis pour en sortir un seul au final. Après ça, je suis allé moi aussi chez Dontnod sur Remember Me. Et c'était mon dernier jeu avant Strike Vector, où j'ai rejoint Paul. Paul et PE qui m'ont branché sur ce projet. Et voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, définir justement l'univers de Strike Vector? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Du Star Wars un peu cyberpunk? Reproduire des gros combats à la Battlestar Galactica? Ou partir sur quelque chose d'encore plus péchu?
Alors Strike Vector, en fait, c'est... je pense qu'en fait, on a été... La première inspiration qu'on a eue, c'était le jeu Hawken, en fait. Donc c'était le FPS qui avait avec des mechas. Et en fait, aussi bien en termes d'univers que de manière de développer le jeu, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient indés, ils ont réussi à faire un truc qui tabassait bien. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu un tout qui nous a inspiré, dont une partie de leur univers. Donc c'est vrai que c'était un bon point de repère pour nous. Et c'est vrai qu'on est, en tant qu'artiste, c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance un peu similaire. On a un peu une... Enfin, il y a des visions un peu similaires, des mouvements artistiques en commun. Donc on est un peu... ça, c'était un peu notre point de départ. Et puis on a voulu justement... On est beaucoup plus parti dans de l'industriel, enfin c'est des plateformes qui volent, des plateformes pétrolières. En fait on a voulu refaire un monde un peu comme aujourd'hui, enfin avec les mêmes points de repère mais dans les airs en fait. Donc bah voilà, il y a des cargos qui volent, il y a des usines qui volent, il y a des slums, enfin des bidonvilles qui volent, il y a des cités qui volent, enfin c'est voilà, s'il y a un cargo, enfin des porte-avions mais dans les airs quoi.
Alors c'est marrant, ça me rappelle une BD qui est sortie chez Aquileos, petite pub facile, qui imagine que la totalité de l'humanité, pour ainsi dire, manque de disparaître suite à d'énormes cyclones qui se créent et à la montée des eaux. Le seul problème, c'est que ça a lieu au XVIIe siècle, et l'histoire de la BD se situe elle-même fin XIXe, mais on a créé justement des cités largement j'allais dire flottant en quelque sorte, avec des bases qui sont arrimées dans l'océan, et on a tout développé justement au niveau de l'aviation et autres. Donc vous, c'est un peu, je dirais, un côté rétro-futuriste, avec, voire même complètement futuriste, on a développé des plateformes gigantesques en l'air, et tout se fait maintenant à ce niveau-là, y compris la piraterie.
Bah, ça c'est complètement ça en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que l'univers est plus venu. En fait, on a d'abord. En fait, on voulait faire un jeu de vaisseau, un jeu dans les airs. Et c'est par-dessus qu'on a voulu créer une histoire. Enfin, c'est pas on a créé une histoire et ensuite on a fait un jeu quoi. Donc, après, ouais, on a voulu. Bon, nous, voilà, eux c'était des tempêtes, des cyclones. Nous, c'était des bombes nucléaires. Donc voilà. La surface de la Terre, elle a été complètement irradiée. Et puis, bah voilà, on s'est dit, bon, bah vas-y, on va faire une. Voilà, tout vol. Et puis voilà, c'est Stravector.
Ouais, bah c'est grosso modo ça. Il y avait aussi une volonté de, d'orienter cet univers dans les airs, parce que on se confrontait à un genre qui se rapproche vachement du simulateur de combats spatiaux. Et on s'est dit, bah, si on fait ça dans l'espace, bah, on va passer complètement inaperçu et on n'a pas forcément beaucoup de choses à raconter au niveau de ça. Donc ça a été un peu.
Cadre en tant que tel au niveau spatial et plus.
Ouais,
basique.
Ouais, voilà, on s'est dit, bon, on va faire quoi, des astéroïdes, bon, bref. Et du coup, bah, naturellement, en fait, ça s'est fait. Ça n'a pas tellement été super réfléchi, quoi. Hein. On est parti dans cette direction et ça a évolué. Comme disait Paul, c'est plus le jeu qui a façonné l'univers que l'inverse. Enfin, ça a été vraiment symbiotique, quoi, comme démarche. Voilà, on n'a pas de scénario à la base. Le scénario, il est venu limite après, en fait. Voilà, on s'est dit, bon, ça vole. Pourquoi ça vole? Ok, d'accord. Et c'est passé. Comment ça vole? Non, mais comment ça vole? On ne sait pas.
Pourquoi ça explose?
Et ouais, du coup, on est parti dans un truc, la Hawken, un peu cyberpunk pour le coup. Au niveau des vaisseaux, on a eu une démarche assez simple, c'est de prendre des silhouettes de vaisseaux type shooter des années. Voilà, je raconte. Shoot 'em up, début des années 90, genre Thunder Force, Gradius, etc. Et reprendre ces formes vraiment exagérées, avec des gros moteurs, des fuselages, des cockpits assez étroits. Et par-dessus ça, en fait, on y ajoutait une touche plus réaliste, entre guillemets, donc avec de la tôle, de la ferraille. Sur les vaisseaux, il y a les moteurs qui débordent, ils sont même pas cachés. Tu sens que c'est un peu de la récup à droite à gauche.
Bon, en fait, t'as pas voulu faire Japanie, mais avec des jolis vaisseaux tout effilés qui te détruisent les trois quarts de la galaxie en tirant, plutôt des trucs, je dirais limite, retapés au fin fond de l'Union soviétique et faits pour envahir l'Ukraine actuellement.
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, au départ, il y avait vraiment une base japanime très forte. Et justement, on s'en est rapidement écarté au niveau du rendu, parce que justement, ça avait les premiers vaisseaux qu'on faisait en 3D avec Paul, ils étaient justement assez lisses, assez high-tech, ils n'avaient pas beaucoup de défauts, les formes étaient assez profilées et tout ça. Et puis, en fait, on a décidé de faire des trucs beaucoup plus cabossés, plus destroy, parce que ça nous plaisait plus, c'était plus marrant à faire.
Ouais, sur la formation de l'univers, en fait, on avait déjà des décors qu'on avait fait, parce qu'on voulait des décors un peu bordéliques, un peu industriels, donc plateforme, bidonville, volant, etc. Donc on s'est dit, pourquoi il y a ces trucs-là dans les airs? Pourquoi ça vole? Forcément, c'est post-apo, donc il y a eu un cataclysme nucléaire, donc c'est plus habitable par terre, donc c'est un bon prétexte pour faire tout voler. Et puis, pourquoi c'est des plateformes? Parce que c'est business as usual, il faut bien continuer à forer du pétrole et à niquer la planète, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça.
On va continuer ce qu'on a si bien commencé.
Très simplement, voilà. Puis effectivement, pour les vaisseaux, c'est un peu ambiance. Agence touriste, comment construire un vaisseau de combat dans sa salle de bain avec un chalumeau et une disqueuse, quoi. Et voilà, c'est à peu près ça en gros l'univers.
Alors avant de conclure, un petit truc. justement, vu que vous êtes indépendant, est-ce que vous pourriez parler, à la fois des difficultés que vous avez rencontrées, pourquoi le choix d'une plateforme comme Steam, justement, est-ce que vous n'avez pas songé à aller vers d'autres genres, que ce soit les consoles ou autres, et le jeu, pour l'instant, il est principalement orienté multijoueur, donc on bute le gentil voisin qui se connecte d'où qu'il soit du monde, mais il m'a semblé entendre parler, justement, d'un scénario solo et d'évolution systématiquement gratuite qui arriverait.
Alors, premièrement, déjà, pour le solo, il n'y a pas de scénario. En fait, c'est des challenges qu'on est en train... Donc ça, c'est ce qui va arriver dans le prochain pack, début avril, en fait. Donc il y aura des challenges qu'on pourra faire tout seul. Enfin, il n'y aura pas besoin d'être connecté avec d'autres joueurs pour pouvoir y jouer. Donc il n'y a pas d'histoire. On simplifie à mort, mais tout seul, on peut jouer et on peut se foutre sur la gueule avec ses potes et battre des scores, etc. Enfin, on aura un leaderboard pour se... Enfin, voilà, ça va être... On commence déjà nous-mêmes à se tirer la bourre entre nous, alors que enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Alors sinon, j'ai oublié la première question. C'était quoi ? Ah oui, indépendance. Bah en fait, on à travers nos différentes expériences, on a vu que être avec un éditeur, c'est beaucoup de contraintes. Ça peut même couler des studios. Enfin, c'est donc on a voulu en fait s'extraire au maximum de ce genre de situation en fait. Donc après ça, financièrement c'est pas forcément évident. Donc on s'est démerdé en fait pour pouvoir gérer l'ensemble du jeu nous-mêmes en fait. Qu'on ait juste à payer nos loyers, notre bouffe et c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'à nous quatre, puis les gens qui nous en rejoignent au fur et à mesure, on puisse faire le jeu nous-mêmes quoi. Donc on n'avait pas le choix en fait quoi. Si on voulait faire un jeu, il fallait qu'on puisse le faire à nous tous quoi, sans que ça nous coûte un centime quoi. Et le fait d'être indépendant, c'est le luxe de pouvoir faire ce qu'on veut entre guillemets, de bosser avec qui on veut, enfin de faire le jeu qu'on a envie de faire quoi. Parce qu'un éditeur, il va mettre des sous, donc il va vouloir avoir des résultats, il va du coup vouloir influencer avec sa propre vision qui peut être juste ou au contraire, qui peut être juste ou au contraire complètement pourri, j'ai envie de dire. Enfin, en fonction de notre point de vue de développeur, ça peut carrément aller à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que on voulait pas du tout se retrouver dans cette situation et c'est vrai que l'éditeur c'était pas la bonne option pour nous quoi, du tout.
Pas grand chose à rajouter. Effectivement, un éditeur c'était juste trop contraignant et puis on est tous de background, on bossait pour des boîtes assez grosses, donc on a vu de près les limites de ce système et donc ça nous a donné envie de le faire en indépendant. Après au niveau des difficultés, au final c'était pas... c'est avec le recul, on n'est pas des gavroches quoi. On a réussi à le faire dans de bonnes conditions. On a beaucoup travaillé, mais c'était pas non plus extrême. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui bossent dans des studios classiques qui bossent plus que nous. J'en connais, hein, je connais un pote qui est... Enfin bref, je vais pas en parler, mais qui sont salariés et qui bossent comme des...
Et après Steam, vous pensez à un autre partage?
Il y a des possibilités qui commencent à s'ouvrir et puis on va voir quoi.
Ouais, on a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous. Après forcément, par exemple sur console, c'est très difficile de le faire seul sans avoir recours à un éditeur. Avoir recours à un éditeur, justement, c'est ce qu'on voulait éviter au départ. Donc si jamais on avait recours à un éditeur pour nous aider sur un portage, pour nous la priorité c'est évidemment de garder absolument le contrôle sur le contenu, sur les gameplay qu'on fait et sur les jeux qu'on veut développer quoi.
Bah écoutez, merci à tous. Alors je vais vous laisser chacun votre tour sortir la phrase de fin. Donc faites-vous plaisir, sortez ce que vous voulez.
Si vous jouez à Strike Vector, il faut tout péter.
Strike Vector plus fort que la mort.
Jouer à Strike Vector ou n'y jouez pas, mais ce qui serait bien serait de l'acheter, ça nous aiderait, voilà. Donc merci beaucoup, à plus.
Je crois que ça se termine sur la voie de la raison. Merci à tous les trois et bon courage.